Déroulement du livre. Parcourant leur ville et leur village, il enseignait.
À Déroulement du livre aujourd'hui, nous vous présentons une émission animée par Sœur Catherine Aubin, dominicaine théologienne, professeure, prédicatrice et auteure. La série s'intitule « Prier avec son cœur, la joie retrouvée ».
Bonjour à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Bonjour à vous pour cette lecture, ce commentaire de « Prier avec son cœur, la joie retrouvée ». Je suis heureuse de vous en parler, j'espère, avec joie. Il y a pour commencer ce livre une phrase « Dieu attend là où sont nos racines », une phrase de Rainer Maria Rilke. Pourquoi cette phrase? Les racines. C'est les racines de quoi? C'est les racines de notre cœur. C'est là où va se jouer la tristesse, la colère, la peur, mais aussi la joie. Les racines, c'est ce que le Seigneur nous demande quand il nous dit « Mais où es-tu ? Es-tu dans tes racines ou bien es-tu tête en l'air ou autre part, dans le passé, dans le futur ? Dieu attend là où sont nos racines, Dieu attend là où nous sommes dans le présent, dans l'attention, ça sera des chapitres de ce livre, il nous attend pour justement vivre une vie de joie. Pourquoi ce livre? Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Parce que j'ai plusieurs fois dans ma vie, je n'ai pas été dans la joie. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de larmes tout au long de ces années, de la souffrance, de la tristesse, beaucoup de peur, et c'est depuis, disons, une petite dizaine d'années que la joie a reparu, que la joie a rejailli de façon très silencieuse, discrète, mais elle est reparue de façon presque, de façon durable. Voilà. Et j'avais vraiment envie de parler de la joie parce que j'en ai parlé avec un groupe de mamans à Rome pendant plusieurs années. C'était un groupe qu'on avait nommé Oasis. Et les dernières années où nous avons été ensemble, où j'animais ce groupe avec des réflexions spirituelles, le thème c'était la tristesse et la joie. Pourquoi sommes-nous tristes et pourquoi avons-nous tant de mal à rejoindre la joie? Donc je pense qu'au fur et à mesure de cette lecture, de ce commentaire de livre, nous parlerons aussi de la tristesse, parce que c'est parfois plus facile de parler de la tristesse que de parler de la joie. Alors si la joie était une couleur pour vous, quelle serait-elle? Rouge, jaune, vert, vert clair, bleu ciel? Et si la joie était une fleur? Un coquelicot, une rose, une pâquerette, une jonquille. Si elle était une plante, là je n'ai pas de nom qui me vient, mais une plante, quelle serait-elle? Un arbre, un cyprès, un pin, un olivier? Et si la joie était un film? Là, je vous laisse réfléchir. Si elle était un film, une musique du Vivaldi, du Bach, du Mozart, du Schubert? Et si elle était une chanson? Ou encore si la joie était une parole. Pourquoi parler de la joie? Pourquoi écrire sur la joie? Et surtout, où se cache-t-elle cette joie? Où s'enracine-t-elle et d'où vient-elle? La question qui va parcourir tout ce livre, est-ce un chemin pour prier? Est-ce que la joie est le fil rouge de la prière? Est-ce important de cultiver la joie? Est-ce important de se déterminer pour la joie? Simone Paco, dans un de ses livres, je crois le deuxième, parle de cultiver la joie, de se déterminer pour la joie. Elle dit dans ses exercices, c'est important une journée au moins par semaine de se dire « aujourd'hui je décide ». De vivre cette journée dans la joie. Alors, sommes-nous joyeux? Est-ce ou ne le sommes-nous pas? Ce n'est pas pour rien que le pape François a commencé son pontificat avec le premier écrit, la joie de l'Évangile. Est-ce que nous sommes joyeux de temps en temps, rarement? C'est des questions, tout cela, très personnelles, qui rejoignent notre quotidien. Et la joie, ça nous permet de savoir un peu la température de notre vie spirituelle, et j'ai envie de dire aussi la note de musique. Est-ce que c'est une note basse? Est-ce que c'est une note plutôt gaie, plutôt joyeuse? Est-ce que c'est une note plutôt indifférente, la même? La joie, elle ressemble à de la musique en nous. Et il me semble que l'objectif que le Seigneur nous demande, c'est de retrouver, d'être au diapason avec lui. Je pense que notre Dieu est amour. C'est pas je pense, c'est notre Dieu est amour, et s'il est amour, il est joie. Et s'il est joie, c'est qu'il veut nous partager cette joie, et à nous de trouver le diapason de cette joie. Cette joie, elle est jubilation, elle est allégresse. On peut dire que, au fur et à mesure de notre expérience, elle vient et puis elle repart. Dans ce livre, il y a, je l'ai dit au début et je le redis, cette question du Seigneur dans la Genèse à Adam. Où es-tu, Adam? C'est la grande question que le Seigneur pose à chacun de nous. Où es-tu? Où suis-je? Où en suis-je en ce moment? Vous voyez bien que c'est pas une question d'ordre spatial, c'est pas une question de savoir dans quel lieu géographique était Adam, c'était de lui dire « Mais où es-tu? Où es-tu en ce moment, Adam ?» Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le livre de la Genèse, Adam répond « J'ai eu peur, je me suis caché, car j'avais honte. » Eh bien, dans ce livre, on va faire le chemin inverse. On l'a fait, je l'ai fait avec Saint Dominique dans les 9 manières de prier. Mais là, on va faire le chemin inverse en se disant, où es-tu, joie? Où es-tu, ma joie? Et d'où viens-tu? C'est Séraphin de Sarov qui saluait les personnes en leur disant, bonjour, ma joie. Le Christ est ressuscité. Quand Séraphin de Sarov accueillait les pèlerins alors qu'il était en Russie, dans le désert de Russie, eh bien des centaines de pèlerins venaient le voir, il avait 80 ans, et quand les personnes entraient, il leur disait « Bonjour, ma joie, le Christ est ressuscité ». Alors ce livre, c'est justement le parcours inverse de Adam. On va essayer de ne pas se cacher, de ne pas se dérober à cette voix joyeuse qui nous appelle et qui nous désire. C'est quand même très surprenant de voir que dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15 et 16, Jésus promet la joie. Je vous redis quelques versets. Chapitre 15, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Au chapitre 16, amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Ou encore, vous aussi, vous êtes dans la peine, mais votre cœur se réjouira. Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Et encore, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. Et au chapitre 17, « Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. » Alors, posons-nous cette question. La joie, est-ce qu'elle se cache? Est-ce qu'elle se cache dans ce qui fait l'essentiel de notre vie, de notre quotidien? Est-ce que la joie donne sens, orientation, boussole à l'existence? Dans ce livre, j'ai voulu prendre au mot le Seigneur. Je lui ai dit « Explique-nous. Explique-nous de quelle joie tu nous parles. Où pouvons-nous la trouver, la retrouver et la cultiver ?» Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que je pense que rechercher la joie, c'est rechercher la perle, c'est rechercher la source cachée, le trésor enfoui, c'est une certaine façon redécouvrir son cloître intérieur. Quand je dis cloître intérieur, je vous demande d'être dans votre imaginaire et de penser, pour ceux qui connaissent les cloîtres romans en France, les monastères romans du XIIe siècle, eh bien dans ces monastères cisterciens, il y a toujours un cloître. Et dans ce cloître, il y a des plantes et il y a un puits. Le lieu du cloître dans les monastères cisterciens, c'est le lieu d'où tout part. Le réfectoire, la chapelle, la bibliothèque, et donc Saint Bernard a voulu construire les cloîtres à l'image de ce que doit être notre intériorité. Le cloître est l'image visible de notre cœur. Donc rechercher la joie, c'est retrouver le contact avec ce cloître intérieur, plein de roses, plein de fleurs rouges, jaunes, et ce puits qui est au cœur de ce cloître. Il y a une phrase de Henri Suzeau qui dit « Rien n'est plus joyeux qui ne soit conforme au fond le plus intime de la nature divine. » C'est-à-dire que la joie nous fait, en d'autres mots, la joie nous fait toucher Dieu. C'est pas pour rien que les fruits de l'Esprit Saint, les deux fruits qui nous disent la présence de l'Esprit Saint sont la joie et la paix. Alors j'ai posé cette question dans ce livre, sommes-nous des abonnés absents à la joie? La joie, c'est un appel, elle porte en elle une vocation, laquelle? Nous réveiller, nous dilater, nous ouvrir, nous rappeler qui nous sommes et vers qui nous allons. La tristesse fait tout le contraire. Elle nous réduit, elle nous rétracte, elle nous contracte. Dès que la joie se lève, dit Jean-Louis Chrétien dans son livre La joie spacieuse, dès que la joie se lève, tout s'élargit. Notre respiration se fait plus ample. Notre corps, l'instant d'avant replié sur lui-même, n'occupant que sa place ou son coin, tout d'un coup se redresse et vibre de mobilité. Nous voudrions sauter, bondir, courir, danser, car nous sommes plus vifs dans un plus vaste espace et le défilé resserré de notre gorge devient le guet du cri, du chant ou du rire déployé. La joie, c'est l'autre versant de la louange. Elle permet la louange, elle permet de rendre la vie plus fervente et aussi plus simple. Qui dit joie, dit Dieu, tout simplement. Si la source de la joie est Dieu, et si nous avons perdu la joie, cela signifie que nous sommes aux abonnés absents. C'est très important de s'arrêter là-dessus. Où sommes-nous? Est-ce que notre Seigneur qui nous appelle à chaque instant, est-ce que nous l'entendons? Est-ce que nous le recevons? Ou bien sommes-nous aux abonnés absents, c'est-à-dire dans une forme de vie qui ressemble à une des maladies spirituelles qu'on appelle la cédie, c'est-à-dire absent de nous-mêmes, sans direction, sans gouvernail et errant dans le vague. La cédie, c'est cette perte du goût, c'est cette perte du sens profond de l'existence. La joie, c'est tout le contraire de la cédie. La cédie, cette maladie spirituelle dont parle Évagre le Pontique, elle est une forme d'anesthésie. Il y a plus de goût. C'est une forme d'indifférence à tout ce qui fait la vie. Et la joie, ça va être l'antidote à la Lacédie. Dieu est amour, donc Dieu est joie. Si nous croyons en lui, cela veut dire que nous croyons que nous sommes habités par l'amour. Nous sommes au contact de l'amour et donc nous sommes habités par sa joie. Ça va être le grand défi de ce livre, comment être au contact de la joie. Comment la libérer? Comment la délivrer? Elle est en nous, mais nous sommes autre part, ou bien nous accordons trop de poids et d'importance à la tristesse. Retrouver la joie, la cultiver, c'est finalement entrer dans les mœurs de Dieu. C'est finalement entrer dans les pas de Dieu. C'est finalement entrer dans ses pensées. C'est un peu comme l'humilité. L'humilité, c'est la même chose. L'humilité, disent les pères de l'Église, est connaturelle à Dieu et à l'homme. Eh bien, je pense qu'on peut dire la même chose pour la joie. La joie est connaturelle à Dieu et à l'homme. Si j'entre dans la joie, je me fais plus intime du Seigneur et lui se fait plus intime de ma condition. Il y a une petite préposition qui peut nous entraîner dans la joie, c'est la préposition avec. Parce que la joie, c'est pas du tout une bulle de champagne. Ne croyons pas que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la superficialité. La joie, c'est dans les profondeurs qu'elle se situe. Et quand je dis avec, la joie, elle se situe dans les profondeurs d'une présence, la présence du Christ. Et la présence du Christ qui, lui, est avec moi. Mon défi, ça va être d'être avec lui et de retrouver la joie. La joie, elle nous fait tenir debout. Tenir debout dans la vie et elle nous fait tenir debout dans la nuit en chantant. Pensez à tous ces prisonniers de la Deuxième Guerre mondiale dans les camps et à tous ceux qui ont eu cette force de chanter et de jouer de la musique. Pour tenir debout. La joie, elle repousse et elle enfonce la haine. Là, pensez à un film que je vous conseille qui s'appelle Joyeux Noël. Ce film raconte la Première Guerre mondiale, allemand, anglais, français, ils sont dans une tranchée, Noël approche, et je ne sais plus exactement comment l'idée leur est venue de chanter le soir de Noël. De chanter ensemble. Et on voit dans le film, ils sortent de leur tranchée et ils se retrouvent tous à chanter Minuit chrétien, à chanter Noël. Alors que quelques jours avant, ils étaient en train de se tuer. Et l'histoire, puisque c'est un fait historique, l'histoire nous dit qu'après, ils n'ont pas pu reprendre les armes et ils ont dû quitter le terrain de bataille parce qu'ils ne c'était terminé. Ils ne pouvaient plus reprendre les armes pour se tuer. La joie repousse et enfonce la haine. Tous les enfants sont joyeux. C'est un peu une constatation. Je pense que, vous allez me dire peut-être, il y en a qui ne le sont pas, mais d'une façon générale, tous les enfants sont joyeux. Ils ne savent pas pourquoi. Et on peut dire que c'est quelque part constitutif de leur nature. Ils sont joyeux parce qu'ils sont vivants. C'est aussi simple que cela. Ils se définissent pas. Vous voyez, le grand problème d'aujourd'hui, c'est que nous nous définissons par ce que nous faisons. La première chose que l'on fait quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Un enfant ne fait pas ça. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Enfin oui, qu'est-ce que tu as fait? Mais comment te sens-tu? Un enfant, c'est joyeux parce que c'est vivant. Et l'enfant connecte, touche à la vie en lui. Et donc, comme la vie est joie, l'enfant est joyeux. Le premier pas, pour nous, ça va être de prendre acte que nous portons en nous un sens inné de la joie. Saint Augustin, dans les Confessions, dit cette chose très importante. Comme elle est une chose, la joie, dont personne ne peut se dire sans expérience, nous la retrouvons dans notre mémoire et nous la reconnaissons. Ça va être le fil conducteur de tout cet ouvrage. Nous avons une mémoire innée et active de la joie. C'est-à-dire que chacun de nous, nous avons des souvenirs de joie, des souvenirs joyeux. À nous de nous reconnecter avec cette joie. Ça, ça va dépendre de notre détermination, de notre choix. Mais à nous de choisir de nous reconnecter avec la joie. La joie, la mémoire de la joie, elle est pour l'avenir, elle est pour vivre le présent et le futur, pour aimer et servir. Hein, que cette phrase, le saint est un saint joyeux. Quand nous servons, quand nous aimons, il est impossible d'aimer quelqu'un sans être joyeux. L'amour va avec la joie, le service la même chose. Si je sers en boudant, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il y a quelque chose dans la joie qui va me servir à servir et à aimer. La joie, elle nous donne une mémoire lumineuse. Et là, il faut penser aux aveugles. Les aveugles qui, dit-on, sont malvoyants ou ne voient pas. Mais en fait, quand on parle avec des aveugles, quand on lit par exemple Jacques Lucéran avec son livre « Que la lumière soit », on voit bien que ces aveugles, ils ont une mémoire lumineuse. Ils touchent en eux à la lumière. Et la lumière, c'est aussi la joie. La preuve, quand vous entendez certains Québécois ou certains Français qui sont sous la neige, eh bien, ce qui leur déplaît dans le temps d'hiver, c'est le manque de lumière. Nous avons aussi un besoin inné de lumière, parce que la lumière est porteuse de joie. La lumière et la joie, elle répare le monde en nous. Elle va prendre soin de Dieu en nous et autour de nous. Maurice Zindel nous dira souvent, quand vous rencontrez quelqu'un, dites-vous, qu'est-ce qui se passe en Dieu, pour Dieu, dans cette personne? Eh bien, prendre soin de la joie, c'est prendre soin de Dieu en soi et prendre soin de Dieu dans la personne. La joie, elle va, comme je vous l'ai dit, elle va dilater. Alors que la colère, la peur et la tristesse vont contracter. Il y a dans le mouvement de la joie un mouvement de respiration. Alors ce livre, Prier avec son cœur, la joie retrouvée, c'est une façon de poursuivre le chemin parcouru avec le corps, puis avec les cinq sens. Là, il y a quelques années, j'avais fait la même chose ici, c'est-à-dire de vous parler de ce livre « Les fenêtres de l'âme », « Prier, aimer avec ses cinq sens ». Et cette fois-ci, après le corps, après les cinq sens, on va parler du cœur. Ce cloître intérieur, le cœur, ce lieu, cette demeure, cette habitation, cet espace de la rencontre où nous pouvons, comme dit encore Saint Augustin définit le cœur comme être là où je suis. Le cœur, c'est d'être là où je suis. Le corps, avec les mains, les genoux, le cou, les jambes, nous ont montré une voie dans le livre « Prier avec son corps » à la suite de Saint Dominique. Les cinq sens spirituels comme fenêtres de l'âme nous ont ouvert des espaces intérieurs. Et ce livre voudrait être un itinéraire, un peu, vous savez, comme la carte du tendre au XVIIe siècle. Comment arriver à la tendresse? Il y avait un auteur qui a fait une carte du tendre. Peut-être que ce livre pourrait être un parcours comme cette carte du tendre, pour réveiller notre joie, la cultiver, éviter les obstacles qui en obstruent l'accès. Le corps, nous l'habitons, nous le vivons chaque jour, plus ou moins bien, mais avec lui, et nous savons de façon palpable où nous en sommes. Vous êtes en train d'écouter, vous savez si vous êtes assis, si vous êtes en voiture, si vous êtes en train de faire la cuisine. Avec nos cinq sens, on s'oriente dans la vie. Hein, il y a qu'à voir l'importance des yeux, des oreilles. On s'oriente aussi dans nos relations, ainsi que dans notre dialogue avec le Seigneur. Ce sont donc des parties visibles de nous-mêmes qui nous emmènent vers un au-dedans de nous, dans la cellule de l'âme. D'une certaine façon, parler du corps et des cinq sens pour prier comporte des repères, le cou, les genoux, ou bien la vue et l'ouïe. Mais le cœur, c'est plus difficile de parler de cœur. Le cœur, ce siège où nous sommes habités par la présence de Dieu, ce noyau, comme dira Edith Stein, ce noyau intime où nous entendons qui nous sommes et nous entendons la parole, l'appel du Seigneur. Sa vocation profonde, elle vient de notre faculté à entendre cette voix intérieure. Et là, nous allons découvrir notre vocation profonde. Comment trouver le moyen de parler de ce lieu, de cet espace si intime? Il m'a semblé que la joie était cette fois-ci le fil rouge pour explorer notre demeure cachée et pour descendre dans notre cœur. La joie, c'est comme un diapason. Un diapason que le Seigneur a déposé en nous et dont il attend la note juste. Car à chacun de nous, le Seigneur dit, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Nous sommes joie profonde et nous n'osons pas nous l'avouer. Nous portons ces racines dans notre cœur, il faut les cultiver, il faut transformer les plantes de tristesse en exultation. Transformer ces germes d'indifférence en allégresse et en dilatation. Pourquoi ? Parce que la joie nous fait agir au meilleur de nous-mêmes. Elle nous fait vivre au meilleur de Dieu en nous. Elle est notre port d'attache qui nous relie à l'éternité sur terre. On peut dire, entre autres, d'une certaine façon, la joie, c'est le ciel en nous. Le cœur est un foyer, le foyer de l'intériorité, et saint Augustin utilise plusieurs images pour nous aider à ce recueillement du dedans. Pour revenir au cœur, il va parler de la maison du cœur, de la chambre, du coffre, ou encore d'un champ qui reçoit la semence, et enfin de l'abîme. Autant d'images qui suggèrent les profondeurs secrètes du cœur et aussi notre incapacité à connaître le cœur d'autrui comme le nôtre, et qui nous disent aussi que le cœur est le lieu où Dieu demeure et nous habite. Lorsque Dieu nous parle, il le fait dans le fond de ce cœur, d'où vont naître aussi nos pensées, et surtout le vrai dynamisme, le vrai élan, la vraie énergie, cette joie. Nous pourrions dire avec saint Augustin, ou en le paraphrasant, nous pourrions affirmer que notre cœur ne peut trouver de repos et de joie qu'en Dieu.
À déroulement du livre, vous venez d'entendre sœur Catherine Aubin, dominicaine, théologienne, dans une série intitulée « Prier avec son cœur, la joie retrouvée ».